Amis de Radio Occitanie et de la poésie, Les Poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. La poésie, nous l'avons voulu ici plurielle, depuis 1983. C'est-à-dire ouverte à toutes les formes, à tous les genres de poésie. Pas d'exclusivité. Nous sommes ici, en Occitanie, dans un pays où la convivienza règne. Et donc, cette convivienza, elle règne également, c'est le vivre ensemble, elle règne également dans les arts, et en particulier dans la poésie. Alors, cette semaine, nous allons entrer dans la poésie spirituelle. Et nous avons la chance, le grand plaisir d'avoir avec nous, par téléphone, un des grands poètes de cette poésie spirituelle d'expression française contemporaine, un poète qui a vécu une époque que je connais bien, puisque, comme Jean-Paul Michel, il est de mon année de naissance, 1948, 75 ans. Il s'agit du frère Gilles Baudry, qui est moine bénédictin à l'abbaye de Landévennec en Bretagne. Mais avant de parler avec notre interlocuteur, ce poète de la spiritualité qui est connu universellement et dans le monde entier, je voudrais faire une petite annonce, c'est-à-dire un signalement d'une publication. Alors, il s'agit d'une publication d'une poésie spirituelle également, de grande spiritualité, du poète Éric de Russe, D-E, puis plus loin Russe, R-U-S. Son recueil de poèmes s'appelle « Cet amour inconnu d'où monte la parole, amour avec un grand A et parole avec un grand P ». C'est édité aux éditions Saint-Léger. Ce poète, figurez-vous qu'il est toulousain. Il est né à Toulouse. Et il est marié, il enseigne la philosophie puisqu'il est agrégé et docteur et qualifié aux fonctions de maître de conférence. Donc, outre son intérêt pour la pensée anthropologique et pédagogique d'Edith Stein, à laquelle il a consacré plusieurs publications, Éric de Russe a écrit des essais sur la démarche artistique, la quête spirituelle, ainsi que des recueils de poésie dont plusieurs ont été primés. Alors, son itinéraire poétique a fait l'objet d'un documentaire que vous pouvez retrouver, je pense, sur l'INA. C'est un documentaire qui s'appelait « Éric de Russe, poète de la présence ». Présence avec un grand P, un P majuscule. C'est France 2 qui avait fait ce reportage sur Éric de Russe. Donc vous pouvez le trouver, je pense, sur CFRT France 2. Voilà. Alors, qui est Éric de Russe? Dans ce recueil que je vous recommande, cet amour inconnu de Monte la Parole, qui a le mérite de nous offrir des poèmes brefs, comment dirais-je, d'une intensité de paroles, de langage, avec une économie de moyens, c'est-à-dire il n'y a pas un adverbe, il n'y a pas un adjectif qui soit superflu. C'est vraiment des poèmes ciselés, je dirais, comme un orfèvre, que vous pouvez lire donc dans ce livre, Éric de Russe, cet amour inconnu de Monte la Parole. Alors, bien entendu, il s'agit aussi, dans cette quête spirituelle, il s'agit aussi d'une quête mystique. Qu'êtes-vous amour en cet exil de la vie mienne? La trace indélébile d'une absence laissée par le passage de votre présence. Que l'absence puisse habiter un cœur avec la force de la présence, je l'ai appris de vous, secrète connaissance, que ni l'intelligence ni l'imagination ne peuvent prodiguer, connaissance enfouie dans la blessure causée par vous. Et ces élévations, qui montent des tréfonds de l'âme, d'où viennent-elles? Une voix, sans bruit de mots, teinte en l'intérieur et respire au cœur, faisant la main vibrante dont l'écriture trace un chemin, une voix inconnue, frayée par la douceur d'une présence de fin silence plus ancienne que les mots. La main livre passage, sans rien retenir de ce qui la traverse, divin vagabondage du cœur en un pays où l'aveugle est le seul voyant, abandonné à l'insaisissable, tel un fiancé à sa bien-aimée en sa première danse. De vous, amour, je suis que se perdre est sagesse, que marcher c'est aimer, que chaque pas est le premier, que l'inconnu est la voie. Voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'est ce recueil, dont nous reviendrons certainement ici, nous en reparlerons ici à Radio Occitanie. Éric de Russe, cet amour inconnu, d'où monte la parole, poème. Voilà pour l'annonce que je voulais faire. Maintenant, je pense que nous avons en ligne notre frère Gilles Baudry.
Oui.
Frère
tout
Gilles
à fait.
Baudry, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour sur Radio Occitanie pour parler de votre dernier recueil, Gilles Baudry, Le Chant du Balancier, aux éditions Ad Solem. Alors Gilles Baudry, vous étiez en 1985 à Rodez.
Oui, voilà. Je n'y étais pas, mais ça fait.
Et vous n'y ah bon, alors ça me rassure, parce que j'ai dit à mon épouse avant de partir, mais je n'ai aucun souvenir de lui,
non.
Parce que je n'ai jamais manqué un prix Antonin Artaud.
Ouais.
Et je dis, c'est là que nous avons le même âge, hein.
Oui.
Et je me dis, mon Dieu, je perds déjà la mémoire, je n'arrive plus à m'en souvenir.
Vous n'avez pas pu m'y rendre pour obtenir ce prix Artaud, parce que c'était le 15e centenaire du monastère ici.
Ah,
en 85,
oui, bien
compte.
Sûr. Oui, il y avait
je l'avais reçu quand même.
Contrariété quand même d'événements. Hein.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Le prix Antonin Artaud donc, qui a été remis à Gilles Baudry à Rodez. C'était un prix prestigieux. C'est, dans ces années-là, ces journées de Rodez étaient des journées très importantes. Hein. Jean-Pierre Siméon, par exemple, était présent.
Oui.
Voilà. Alors, j'ai vu que ce recueil pour lequel vous allez nous donner le titre. Vous avez eu le prix Antonin Artaud.
Oui.
Et a été réédité par les éditions Rougerie, récemment.
Voilà, en plusieurs fois. Oui, alors récemment, oui.
Récemment,
mais plusieurs
oui.
fois. En tout, je ne sais pas combien de centaines d'exemplaires,
oui.
parce qu'il est toujours demandé. Alors,
oui.
Olivier Rougerie l'a
oui.
bellement, vraiment édité, effectivement, réédité, hein, plusieurs fois. Réédité récemment, on peut le trouver, avec suivi de Invisible Ordinaire. C'est un autre recueil.
Voilà.
Tous les deux ensemble.
Voilà. Alors, c'est dans des bonnes librairies de Toulouse, et en particulier la librairie des frères Flory. Qui l'ont mis à l'honneur. Et voilà, il faut le dire quand même, quand un libraire fait cet effort. Voilà. Alors, vous êtes né en 1948, hein, je l'ai dit
oui.
tout à l'heure.
Oui.
La vocation vous est venue, vous avez fait le service militaire en Allemagne, si j'ai
oui,
bonne mémoire,
alors,
c'est ça
oui, alors en plus, c'était à Tübingen, la patrie de Friedrich Hölderlin.
Ah oui, de Hölderlin, oui.
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 Et, ça, c'était fortuit, par contre.
Oui. Oui, vous en êtes resté indemne, parce que Hölderlin, c'est une fréquentation qui peut être absolument décisive.
Oui, et il faut vous dire que Hölderlin avait une inspiration tournée vers la Grèce, il était helléniste,
oui.
un grand
oui.
helléniste, mais aussi vers le Christ, hein. il
oui.
avait une inspiration christique, oui.
oui.
Malheureusement, Hölderlin, il avait à un moment perdu la raison. C'est quand même étrange en histoire, parce qu'il a réussi à écrire quand même des vers très étonnants sur les copeaux et les, comment dire, du menuisier qu'il a accueilli. Oui.
Il a fait un voyage à Bordeaux.
Et oui.
Donc, il n'était pas loin de chez nous.
Oui.
Alors, nous allons parler donc de ce dernier, donc une œuvre de poète assez très abondante. Vous avez publié, on peut retrouver ça dans les quatrièmes de couverture, enfin avant les fins de vos recueils, mais également bien sûr sur
tous les bons sites d'Internet. Je pense que sur Wikipédia, oui. Par exemple, on va
retrouver... En fait, au départ, je n'avais pas du tout l'ambition d'une œuvre. Hein. C'est René Rougerie qui m'a contacté. Et c'était tous les 3-4 ans, il m'a demandé si j'avais vraiment quelque chose dans mes tiroirs. Et donc j'ai surtout été édité chez lui, une douzaine de recueils. Hein. Oui. Et puis également deux autres chez Adsolem, un chez Locus Solus, et puis des albums avec des artistes, une jeune photographe qui habite près d'ici, etc. Un peintre, des livres d'art en plus, voilà.
Alors... René Rougerie, ça a été un éditeur quand même extraordinaire. J'ai eu le plaisir de faire plusieurs émissions avec lui, ici, dans ce même studio où je vous parle, dans les années 80.
Il avait une probité extraordinaire, René Rougerie, et puis Olivier, parce qu'ils travaillent ensemble. Oui. Et ce que je trouvais très beau, c'était il était à la fois imprimeur,
diffuseur, il diffusait lui-même. Il avait une camionnette, et là, il venait à Toulouse avec sa camionnette.
Ah oui.
Et il laissait les livres dans les librairies.
Je lui dois beaucoup, vous savez.
Oui. C'est un personnage extraordinaire. Je me souviens d'une émission que j'avais fait avec lui en 1982, à Radio Occitanie, donc, il est toujours ici. Et c'était l'année où Jacques Lang, après la fête de la musique, avait lancé la fête de la poésie, la journée de la poésie. Et alors, René Rougerie avait pris la plume. Et il avait écrit un pamphlet, mais enfin assez important, une soixantaine de pages, qui s'appelait La fête des ânes.
Ah oui, je l'ai, oui.
La fête des ânes. Et alors il est venu ici dire tout le mal qu'il pensait de cette initiative.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc c'était un personnage vraiment, et quand il était attaché à un auteur, vraiment il le suivait.
Bien sûr.
Ça, c'est des éditeurs extraordinaires.
C'est un mortemart.
Voilà. Et qui faisait tout lui-même, quoi. Vraiment.
Tout, voilà. Oui. Avec son épouse et son fils. Hein,
voilà, c'est ça, en famille. Et le fils a repris, et c'est très, très heureux, le fils a repris ses éditions. Alors, Le Chant du Balancier, on va retrouver un de vos thèmes, quand même, qui est un de vos thèmes récurrents. Et à mon sens inévitable pour toute poésie spirituelle, c'est le thème du temps qui passe.
Voilà.
Le balancier étant celui de...
C'est une question essentielle pour les poètes, mais je pense pour tout le monde. Hein. Oui.
Oui, pour tout le monde, bien sûr.
Surtout à notre époque où nous sommes dans la tyrannie de l'urgence.
Voilà.
Et moi, je suis plutôt pour l'andante, oui, une certaine lenteur dans l'écriture. qui est pour moi un chemin d'intériorité au fond, hein, quand même. Alors au départ, vous avez peut-être été surpris parce que c'est la pendule, l'horloge, donc le temps pendulaire, parce que l'horloge était comme un personnage dans ma prime enfance. C'était, vous rendez compte, avec ce bruit là, bon, 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 pour les enfants, c'est extraordinaire. C'était comme un personnage, mais c'est pour ça que je parle de l'horloge flottante de Chagall, etc. Mais je dépasse le temps pendulaire, bien sûr, pour arriver à... Alors, bien sûr, les périodes de la vie, la vieillesse, la mort, mais aussi, surtout peut-être, l'irruption de l'éternel dans le plus quotidien, le plus quotidien, le plus anodin. Et ça me touche beaucoup. Je pense que c'est le moment d'écriture, le moment de l'écoute aussi, de l'intérieur, qui vous fait écrire des mots silencieux. Hein. Moi, je me considère comme un artisan des mots. J'aime beaucoup ce mot artisanat. Et puis, évidemment, comme je suis moi aussi serviteur de la parole, hein, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors la Bible, par exemple, ce sont les écritures, mais c'est une écriture qui est aussi parole, et donc une voix. Et je suis très attentif à la tonalité d'une œuvre, de quelle qu'elle soit, à l'euphonie, vous voyez, la petite musique silencieuse qui nous accompagne.
Voilà. Alors, pour l'horloge, je crois que je vous disais que je suis absolument de votre génération, et c'est vrai que notre enfance, à nous, a été bercée par les horloges, les carillons, qui sonnaient d'ailleurs tous les quarts d'heure.
oui.
Et moi, j'en ai gardé une telle nostalgie que j'ai ramené un vieux carillon là, qui était à ma famille depuis longtemps et que je l'ai toujours dans ma maison.
Bon. Ah, c'est bien ça. Vous voulez que je vous en lise un?
Alors, oui, mais je voulais vous dire. Oui. Maurice Blanchot a écrit « Écrire, c'est se livrer à la fascination de l'absence de temps ».
Ah.
Voilà. Est-ce que quand vous écrivez le chant du balancier, vous vous êtes livré à la fascination de l'absence de temps?
Eh bien, aussi, je vous dirais que lorsque vraiment vous êtes en train de, dans l'écriture qui vous arrive, hein, après sans doute un grand moment, ou une marche, quelquefois, ou pendant la marche, il y a un temps sans temps, une sorte d'intemporalité, où il y a quelque chose d'éternel qui vous advient. Et à ce moment-là, il faut, enfin moi au moins, j'essaie d'être dans une sorte de réceptivité, vous voyez, j'aime bien dire que c'est la poésie, c'est une sorte d'état d'annonciation. Vous êtes dans l'écoute. J'ai oublié de vous dire, alors ça va ensemble aussi ce que je vous dis là, mais j'ai toujours, quand je lis, quand j'écris, j'écoute tout le temps. J'ai toujours l'oreille aux sources. Ça me paraît important. Essayer de recueillir en moi cette source qui jaillit ou qui ne jaillit pas. Quelquefois il n'y a rien, voilà. Une absence, effectivement. Et vous parlez d'absence, mais si c'est un de mes thèmes, la présence-absence aussi. Qu'est-ce que c'est que la présence? Et voilà. Et dans un monastère comme le nôtre, eh ben, nous sommes confrontés à une invisibilité de Dieu. une présence, une absence ardente, comme dit Rilke.
Ah oui.
Oui. C'est assez étonnant. Et donc le temps, si vous voulez, à ce moment-là de l'écriture, il est soustrait à l'écoulement des heures. J'essaie de dire ça dans ce poème oui. que je vais essayer de vous lire.
On pourrait peut-être nous relire oui. le liminaire quand même, qui me semble important.
Le liminaire, hein. Peut-être, oui. Alors, le temps est une ombre. Tout passe. Nous passons aussi comme fleurs des champs. Mais en celui qui ne passe pas, en Dieu jeûne l'ensemble qu'éternel, Peggy. Déjà ici-bas, la lumière fait son miel de tout ce qu'elle touche. Prière et poésie se pollinisent. S'instaure au cœur de l'écriture le temps intérieur. Temps sans temps, où affleure l'éternel, comme soustrait l'écoulement des heures. Et pour avoir offert l'hospitalité à l'invisible, l'événement est quotidien, et le mystère semble presque naturel. Des petites épiphanies du réel, le poète fait une métaphore voilée de la présence. Humble artisanat, ces mots silencieux suggèrent en filigrane et en aparté qu'on ne devrait pas évaluer notre vie en termes de pesanteur, mais en mesure de grâce. Voilà.
Qui annonce bien donc le contenu des poèmes qui suivent. Hein.
Oui, ah oui.
Bon, vous citez Hölderlin, bien sûr. Le temps est d'une précision littérale et d'une infinie miséricorde.
Ça, je trouve ça très beau.
Oui. Ah, oui.
C'est comme ce temps qui nous est imparti, nous n'avons qu'une heure et même plus maintenant, vous voyez. Mais c'est déjà un temps intérieur, parce que nous sortons de la banalité, vous voyez. Et du coup, nous entrons dans quelque chose d'éternel, quoi, de difficile à cerner, à expliquer, d'une densité, oui.
Oui. Par ailleurs, vous dites nous sortons de la banalité, mais vous dites aussi que ce quotidien, vous pouvez l'appréhender dans ce non-temps aussi.
Oui.
Le quotidien n'est pas exclu de la spiritualité. On peut le vivre aussi.
Au contraire.
Voilà.
Au contraire.
C'est ça.
Surtout avec l'incarnation du Christ qui s'est inséré dans notre temps.
Oui.
Je dirais que, vous savez ce que dit c'est Rilke, qu'il ne fallait pas mépriser surtout le quotidien, même le plus terne, parce que c'est sans doute qu'il nous manquait une contemplation, de l'avoir regardé, de l'avoir vécu. Donc une sorte de paresse de notre part et un manque de contemplation finalement. Nous sommes dans l'action, la vitesse là. Mais ce quotidien, il n'est jamais vraiment terne au fond. Hein. Il n'est jamais. C'est pour ça que j'avais écrit Invisible Ordinaire. Ce que nous ne savons pas voir et qui est sous nos yeux tous les jours. Vous savez, c'est Chateaubriand qui disait, un breton, je vous cite, hein, Chateaubriand qui disait, je regarde ce que tout le monde regarde, et mais personne ne voit ce que je vois. Ah, ça, c'est très beau.
Mais c'est, en même temps, ça, on devine une terrible solitude aussi dans cela.
Aussi, oui. Mais je pense qu'en même temps, le poète ne peut rien faire, ne peut rien écrire sans solitude et sans silence. Mais même si c'est une solitude offerte, bien sûr, et qui va vers les autres, hein, bien sûr, mais c'est, et qui se partage, c'est un secret qui se partage, la poésie en même temps. C'est toujours étonnant, et moi je ne me sens jamais à la hauteur d'une page, hein, même après avoir beaucoup d'années d'écriture derrière moi, j'ai l'impression d'être un débutant permanent, vous voyez. Parce que je pense, j'ai gardé un petit peu, je pense beaucoup, ou un petit peu, je ne sais pas, l'émerveillement de l'enfance, l'étonnement surtout, cet étonnement qui est aussi commun à la philosophie, bien sûr.
Bien sûr. Et justement, c'est ce qui sous-tend tout le reste.
Ah oui, c'est même l'origine.
Cette capacité à conserver cette fraîcheur de l'enfance et cet émerveillement. Voilà. Voilà. Alors que nous vivons dans une société souvent de gens dits habitués.
Eh oui.
Voilà. C'est-à-dire qui vont vers l'indifférence, qui est la pire des choses, quoi.
Oh là, voilà. Oui.
On va vous
en même temps, je sens que dans la poésie comme dans la prière, mes mots sont mendiants. Je les sens fragiles, infirmes. Et c'est pourtant avec ces mots-là qu'il faut que j'aille vers une certaine parole, vous voyez. Donc c'est une présence à soi devant la page blanche. Mais il faut du temps pour que l'écrit vous gratifie d'une parole. C'est vrai. Il faut une certaine patience. Il faut accepter cette ombre, cette voie d'ombre pleine d'inconnu. Et voilà.
On va vous écouter, donc, dans...
Ah oui, dans ce recueil. Je voulais vous lire le silence en partage. L'herbe qui tremble se regarde dans une goutte de rosée. Dans le temps suspendu, tu sais à quelle source s'abreuvent les larmes. Il conviendrait d'offrir le silence en partage, maintenant que le soir dépose son ouvrage. Le chant à bouche fermée du poème t'exonère des mots pour faire entendre l'inouï d'un silence parlé. Peut-être vous en lire d'autres. Ça, c'est... Oui. Ça, c'était un jour, j'étais avec Michel Manol.
Vous savez, ah oui, je voulais vous en parler.
Je l'ai bien connu, qui était un ami de...
René
Guicadou, bien sûr. C'est avec Cadou que je suis arrivé à la poésie.
Alors, voilà, je voulais...
vite avec Supervielle aussi.
Vous m'avez devancé.
Je vais vous lire. C'était un soir ici, il faisait très beau, et à un moment... J'entends la cloche du petit bourg d'Andévennec sur la mer. Je vais lire. Ce soir béni entre toutes les heures d'Angélus et grené sur la mer, au clocher de l'Andévennec. Quelle main d'ange avait jeté le pain blanc des nuages aux oiseaux? La cloche épelle son alphabet de brume, me glissa à l'oreille Michel Manol. Allez. Entre son et sens, le miracle de la correspondance fit que le ciel en moi tinta ses reflets cristallins. Voilà. Et je pense que je pense à Paul Valéry, hein, qui a écrit la poésie, c'est une longue hésitation entre le sens et le son.
Oui.
Et il dit par ailleurs, lorsqu'il a quelque chose à écrire, ben, le poète ne sait pas. Voilà, rien ne lui arrive, et puis il cherche encore, et il trouve mieux, il finit par trouver mieux. Oui, c'était Valéry, ça.
Alors, Michel Manol, grand ami de René Guicadou. Hein, il a fait d'ailleurs
Mentor un peu.
Voilà, le mentor, oui, tout à fait. Il a fait le poète d'aujourd'hui, dans la collection Poète d'aujourd'hui.
Hein, voilà, il a également écrit ici un essai remarquable dans Poète d'aujourd'hui sur Reverdy aussi.
Reverdy et Cadou.
Vous rendez compte, il avait connu toute l'entre-deux-guerres, il avait connu Cocteau, Max Jacob. Et bien d'autres.
Alors je suis très heureux qu'on en parle parce que vraiment il fait partie de ces poètes qu'on a fini par oublier
et qui sont
des poètes immenses
voilà.
Et qui sont remplacés, je regardais une anthologie là récemment, une anthologie franco-chinoise et je disais mais non, c'est pas possible d'avoir sauté tous ces gens là
bien sûr
Tous les gens de l'école de Rochefort, Jean Bouillet, Cadou, extraordinaire.
Serge Vélas, que j'ai connu après, mais il est venu un petit peu après. Et également Pierre Gabriel.
Pierre Gabriel, voilà.
Que j'aimais beaucoup. J'ai jamais rencontré, malheureusement. Oui.
Mais je l'ai lu, Pierre Gabriel.
Et j'ai correspondu avec lui.
Gers, il faisait de l'Armagnac.
Je lui avais dit un jour que ça devait être la sobre ivresse orthodoxe. Il m'a dit, pas toujours sobre, il m'avait répondu.
Oui.
Et précisément, c'était un ami de Michel Manol, ils allaient en Espagne ensemble.
Voilà. Michel Manol, et ensuite, René Guicadou avec Hélène Cadou, qui a été aussi merveilleuse.
Une femme poète remarquable, merveilleuse, d'une générosité, d'une...
Oui. Qui a monté ce musée René Guicadou à Louis Ferre. Extraordinaire. Le plaisir d'y aller aussi.
J'aimais beaucoup Hélène. J'ai rencontré trois fois longuement, mais nous avons une correspondance d'une vingtaine d'années.
Elle aussi. Elle était extraordinaire.
Oui.
Alors, vous parlez aussi... Attendez, avant d'entamer notre... Je voudrais que vous nous lisiez, si vous voulez bien, ce poème « Ode à l'inaperçu », qui est page 9, je crois.
Oui. Ah, vous savez que ce poème, il a beaucoup marqué une photographe amie. Et c'est ce poème-là qu'on m'a demandé de lire à la librairie Dialogue à Brest.
Décidément, oui.
Moi, je dois avoir une autre page, moi. Mais je l'avais à côté de moi. Ça y est, je l'ai. Je suis dessus. Ode à l'inaperçu. Combien nous gagnerions parfois à perdre notre temps, à contempler les petits riens des jours les plus quotidiens. Nous accordons si peu d'estime à ce qui nous entoure. Il y a tant à découvrir dans tout ce qui nous semble aller de soi.
On devrait afficher ce poème partout.
C'est vrai.
Dans le bureau, les gens qui travaillent, tout d'un coup, ils ont un coup de se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Trouver cette ode à l'inaperçu.
Et de même, je crois que le poète s'intéresse beaucoup aussi aux détails, aux petites choses de la vie. C'était d'ailleurs d'un Christian Bobin, par exemple.
Antoine Aymaz aussi.
Jean Follin. Jean-Pierre Lemaire, qui est un ami aussi. Il ne va pas chercher dans les grandeurs, vous voyez, les choses mirobolantes. Il y a un problème aujourd'hui, Christian Bobin le dit assez souvent, d'ailleurs, c'est que nous sommes trop dans le spectaculaire.
Oui, mais de plus en plus. Et on y va de plus en plus. C'est pourquoi des poètes comme vous sont, je dirais, d'utilité publique. Vraiment.
Ce qu'il faudrait apprendre, c'est à recueillir l'instant qui advient, vous voyez, sa gorgée de lumière, là, celle qui arrive, là, vous voyez. Et nous aurions des paroles de source, je pense, à ce moment-là.
Vous citez aussi Yankelevitch.
Ça va vous étonner peut-être, non. Alors, Yankelevitch, ce que j'aime chez lui, c'est un grand philosophe, mais... Un philosophe qui a une pensée musicale.
Oui, mais il est bien
Un peu différemment, évidemment, mais quand même que j'aime beaucoup aussi Louis Lavelle, c'est ça. Et Bachelard aussi, à certains. Mais Yankelevitch, il avait... d'ailleurs, sur le temps, il a écrit de magnifiques choses. Et lorsqu'il parlait, c'était une sorte de chef d'orchestre. Il avait la gestuelle extraordinaire. je n'ai pas connu, mais on m'a fait voir on me l'a montré en vidéo. Et il a des choses extrêmement profondes. Et puis il aimait la musique française, bien sûr. Oh là, oui. Surtout celle proche du silence. Celle de Debussy, bien sûr. Mais de Fauré, etc. Ah oui.
Alors, Yankelevitch, il a marqué notre ville ici à Toulouse, hein, puisque l'occupation, il était caché à l'Institut catholique de Toulouse.
Ah oui. Ah, oui. Je ne connaissais pas celle-là. Oui. Vous voulez peut-être que je le lise?
Oui, bien sûr.
Ouais, je vais vous lire. Hein, bon. Ce presque rien inopiné, quelque part dans l'inachevé, ce pressentiment de l'impondérable, il advient qu'il me touche l'épaule, aile d'oiseau invisible. Silence dans le silence, celui d'un poème qui n'aurait pas été écrit, ou seulement rêvé, à l'instant de poser la neige de ma voix, comme la douce ébriété que vous accorde la musique. La page est une partition voilée, tout en demi-teinte de Debussy et de Gabriel Fauré. À l'écoute de l'éternel. C'est intérieur et sa sonorité qu'elle porte note à note le ciel de votre pensée. Voilà.
Alors, vous avez dédié aussi un poème à Fernando Pessoa.
Ah oui.
Fernando Pessoa, hein, poète immense.
Oh là oui.
Oh bombe
oui.
Atomique, a dit quelqu'un de la poésie du XXe siècle.
Hein. Oui, oui, oui.
Pessoa qui disait « Entre mon être et ma pensée, j'ai senti la vie passer comme un fleuve son courant. »
Oh, ça je ne connaissais pas ça, mais c'est très beau.
Et c'est même la définition de ce que moi je ressens quand je lis vos poèmes, derniers. Voilà.
Je sens je pense passer. Aussi à la sève, oui, qui circule, qui suit son cours, oui. Mais invisible, mais elle est bien présente. La preuve au printemps, elle est là.
Voilà, oui. Vous pourriez nous lire, s'il vous plaît, donc, Pessoa.
Alors, je vais essayer de le trouver, je suis en train de chercher, j'en ai sur Jacques Côté. Attendez, je devrais l'avoir bientôt. C'est surtout aussi en même temps un éloge, une gratitude envers le Portugal que je n'y suis jamais allé, mais c'est un peuple qui aime la poésie, qui en est pétri.
C'est vrai.
Ah oui, ils ont une tradition poétique extraordinaire, de longue date, de toujours, j'ai envie de dire. En Bretagne aussi, il y a une tradition, je peux le dire. Mais en Portugal, vraiment, oui, oui. Je vais essayer de trouver. Il faut que je tombe dessus. C'est un peu ça qu'il y avait derrière. Oui. Ah, est-ce que je vais y arriver?
Vous savez, moi, la page 16.
Ah, ça y est. C'est votre absence qu'on saisit et se propage en 1000 pages inconnues. Vous n'êtes jamais là où l'on vous cherche. Et par, vous êtes éperdu. Et pour vous sentir exister, vous vous multipliez comme personne. Sentir le temps sans le voir vous fait éprouver la fatigue des heures. N'ayant envie de rien, vous portez en vous tous les rêves du monde. Affranchi de toute métaphysique et mystificateur, chaque fois que le quotidien frôle le mystère à deux pas de vous, votre intranquillité vous fait des plis dans l'âme, où le fado vient caresser à votre insu ce qui rêve en nous d'infini. Alors, personne, en portugais, ça veut dire... c'est le nom de Pessoa aussi, hein, personne.
Oui, oui, oui.
Qui veut dire en même temps quelqu'un, vous savez. Oui, ça me fait penser autrefois dans les... Moi, j'ai connu enfant les bonnes épiceries, et le commerçant n'était, ou la commerçante n'était pas forcément là, et on criait, il y a quelqu'un, et on n'entendait rien. Et puis au bout d'un moment, on disait, il y a personne, et on entendait, si. Quelle confiance on faisait aux gens, hein, parce qu'on aurait pu des voleurs, des chapardeurs, mais non. Et il y avait une familiarité, une sorte de famille entre nous.
J'ai bien connu ça aussi. Alors, vous parlez de l'intranquillité, bien entendu, qui fait référence au livre de l'intranquillité de Pessoa.
Ah,
hein.
Oui, ah, oui.
Un des grands livres, enfin, un livre terrible quand même aussi. Hein.
Oui, oui.
Ce livre de l'intranquillité, bon. Moi, il m'a laissé, comment dirais-je, très, très intranquille, justement, pendant longtemps.
Et oui. Hein. Et ça vous remue, oui.
Oui. Oui.
C'était quelqu'un qui était hyper doué, qui avait un surdon, je sais où, puisqu'il a écrit des livres totalement différents, avec des signatures différentes, un style différent.
C'est hétéronyme, oui.
Ah oui.
Et qui a eu une vie très ordinaire de petit comptable,
eh ben oui, tout
de petit.
Voilà.
Oui.
Et puis il a écrit en anglais magnifiquement, à tel point que les Anglais trouvent son anglais admirable. Quoi.
Oui. Oui, mais il avait été élevé à Durban, donc dans la langue de Shakespeare. Hein.
Et oui.
Vous parliez de Philippe Jacotet aussi.
Ah oui, ah Philippe Jacotet. Je l'ai lu justement quand j'étais à Tübingen parce qu'il aimait bien cette région, parce qu'il a toujours admiré Derlin beaucoup. Hein.
Oui.
Et il a toujours dit que c'était son auteur qui l'avait le plus inspiré. Alors, Philippe Jacotet, je n'en ai pas rencontré, mais j'avais deux amis qu'il connaissait très bien. C'était Anne Perrier, suisse, qu'il a révélé à la France d'ailleurs, qui habitait à Lausanne. Et puis Jean-Pierre Lemaire. Il a toujours soutenu la poésie de Jean-Pierre Lemaire, qui allait le rencontrer une fois par an. Et nous avons été tous les deux très frappés par le fait que son livre posthume, c'était La Clarté Notre-Dame. Parce qu'un jour, avec quelqu'un de sa famille, je ne sais pas si son beau-frère, enfin, ils marchaient dans la brume, et au bord de l'abîme, ils ont entendu le son d'une petite cloche en dessous. Et ça lui a révélé, vous voyez, c'est toute son enfance, toute sa vie qui a remonté en lui. Et là, il dit, mais il est très très proche, il est plus qu'au seuil de la révélation, de la foi, il dit, mais finalement, mais alors, dans ce son, il y a plus qu'un son, il y a une présence, voilà. Il dit autrement, mais alors je vais vous le lire, parce que j'ai écrit une lettre posthume à Philippe Jacotet. Juste de vie, juste de voix. Cela même qui nous touche à présent qu'ayant pris congé, vous faites vos premiers pas dans les propriétés de la lumière. Cette autre lumière, venue d'ailleurs, qui semblait émaner des arbres, ouvrir les mains des fleurs et respirer dans une sorte de prière la transparence tremblante de l'air. Vous aviez plus de doutes que de certitudes, tant vos enthousiasmes pouvaient se rétracter ou osciller entre l'appel des lisières au son d'une cloche cristalline et l'inexorable effritement. Fragile parole, sourde modulation, aria au-dessus du ravin, en dépit de tout, vous portiez le pressentiment de l'insaisissable, entrevue au-delà de vous-même. Résumant tout votre être dans vos faibles yeux, vous guettiez tant les signes qu'un dévoilement de l'énigme du monde et ce tintement pur de vêpres, d'une incroyable limpidité, s'offrit à vous, à fleur de paysage. Voilà. Je l'ai travaillé, celui-là, puis je lisais depuis une trentaine d'années, alors. J'avais son adresse depuis longtemps, Jean-Pierre Lemaire me l'avait donné, mais je n'osais pas lui écrire, parce que je me disais, à qui faut que je m'adresse, aux critiques, aux poètes ou aux traducteurs? Mais peut-être qu'on est tous ça à la fois.
Oui, je crois.
Je pense que dès qu'on écrit, dès qu'on pense déjà, eh bien, on essaie de traduire ce qui en nous et n'est pas évident, quoi. Nous heurtons avec l'insaisissable, là aussi, justement. L'indicible. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, les grands mystiques ne s'expriment pas en doctrine ou en dogme, mais toujours par le biais de la poésie.
Oui, Saint Jean de la Croix.
Ah, Saint Jean de la Croix, mais oui. Tant d'autres, hein, Grégoire de Narek, etc. Éphrem, les Syriens, même ceux qui semblaient spéculatifs, se sont exprimés aussi en poème.
Quand vous écrivez...
Parce qu'il se heurte à, justement, c'est Enoseke, comme dit Saint Jean de la Croix. Je ne sais pas dire. Voilà, ce que je ne reste pas exprimé. Je vais essayer de le dire quand même. Donc, c'est pas l'aphasie, vous voyez, quand même.
Quand vous écrivez, est-ce que vous pensez à un lecteur particulier? Pour qui écrivez-vous?
Ah.
Si on vous pose cette question, vous répondez quoi?
Alors, particulier, non.
Oui.
Ça me paralyserait peut-être. Hein. Sauf si c'est une préface que j'ai à écrire ou une postface. Pour quelqu'un de vivant ou même de mort, c'est comme si je me le représente comme s'il était vivant à ce moment-là. Ça a été le cas pour Cadou, parce qu'on m'a demandé une postface, j'en avouais là. Et puis on m'a demandé une autre préface, mais pour quelqu'un qui est encore vivant, mais très fatigué, c'est Jean Lavoué, à qui je voudrais rendre une grande...
Très bien.
Oh, Jean Lavoué, c'est un homme merveilleux, une grande générosité, et qui est dans une santé très très précaire en ce moment-là. S'il y a eu un AVC grave, là, voilà.
Alors,
autrement, j'ai envie de dire, je pense, vous savez, aux Amis Inconnus, c'est un titre de Supervielle. Ces Amis Inconnus, c'était souvent ses lecteurs, au fond. Et par contre, quand j'écris, je me dis, c'est vrai que la poésie n'a pas les lecteurs des romanciers, etc. Encore, il faudrait voir. Hein. Mais peut-être que si je touche quelqu'un en particulier, que je le rejoins en lui, c'est déjà beaucoup. Et j'ai comme une présence-absence là aussi quand j'écris. Alors, je peux pas dire que j'écris pour moi, mais j'essaie d'exprimer ce qu'au fond de moi est le plus profond de mon être. C'est un champ de l'être, si vous voulez. J'essaie d'extirper de moi, vous savez, comme un sculpteur qui voit il la voit, mais il faut qu'il l'extrait de lui. Ça, c'est difficile. Et lorsque j'arrive à le mettre au monde, il y a une sorte de joie parce que je vais pouvoir le partager. Alors, je ne sais pas qui le recevra. Bien sûr, il y a les amis que je connais. Mais c'est assez étrange, c'est un enfant de papier, quoi.
Vous savez ce que disait Pessoa, hein ? Il disait, nous ne connaissons qu'une âme, la nôtre. Celles des autres sont des regards, des gestes et des mots, avec la présomption de quelques ressemblances tout au fond.
Voilà. Ah.
Bon. Ah. Hein ? C'est-à-dire, c'est une négation quand même de l'incommunicabilité, c'est pas vrai.
Ah, ouais.
On communique même Pessoa qui... Bon,
oui. C'est Supervielle lui disait qu'il écrivait pour harmoniser ses dissonances intérieures et pour faire régner en lui une sorte de silence de monde intérieur qui se révélerait un jour. Voilà. Ouais. Mais moi j'ai toujours pensé que c'était un enfantement de notre propre parole, mais comme venue d'ailleurs. C'est étrange, ça aussi.
Oui, oui.
On est le sourcier de ses propres sources, comme j'ai écrit il n'y a pas longtemps, mais il faut les écouter, il faut vraiment toujours à l'écoute.
Est-ce qu'il vous arrive d'être étonné en relisant un poème que vous avez écrit il y a longtemps, par exemple?
Alors... pas trop le poème, parce que je les cisèle, je les relis plusieurs fois, je les passe en moi, je marche avec le poème avant qu'ils soient imprimés, de toute façon. Oui. Mais par contre, oui, je suis étonné plutôt de certaines préfaces ou postfaces ou petites études qui m'est arrivé de faire un jour sur une demande. Ouais, plutôt. Mais évidemment, d'une façon poétique, s'adressant aussi à des poètes, si vous voulez.
Oui.
Et je me dis, mais comment j'ai pu écrire ça à ce moment-là? Maintenant, j'aurais beaucoup de mal. Ou alors, je sais pas, j'avais dû m'imprégner de l'œuvre avant d'écrire ce que j'avais à écrire. C'était comme un devoir. Et donc, je m'étais vraiment mis, quoi. Mais aujourd'hui, je pense que j'aurais plus de mal dans le concept. Hein, parce que, on est beaucoup trop dans le concept, dans les chiffres, surtout, ça, évidemment. Mais le concept du concept, j'aime bien dire ça, c'est pas un jeu de mots. Je trouve que... mais comme dit Lionel Rey, il faut avoir soin des mots, comme de nous-mêmes. Et les mots, c'est pas rien quand même. Hein. Ils ont leur poids, leur légèreté. Ils sont mystérieux. Ils essaient d'exprimer ce qu'en nous est souvent indicible, ce qui balbutie. Je suis souvent au bord du balbutiement.
On va vous écouter. Pour les dernières minutes, si vous voulez bien. donc, si vous voulez bien lire des poèmes. Par exemple, le poème dédié à Léopardi.
Ah, Léopardi ?
Oui.
Je ne l'ai pas écrit celui-là, je ne pense pas.
Pardon, vous citez Léopardi à l'allure des neiges.
Il est cité quelque part.
Comme il écoute la nuit, voilà.
Mais alors, pour le retrouver, ça peut être facile dans mon... Oh là là, je crois que je ne vais pas pouvoir...
Voilà. Peu importe.
Ou peut-être un autre, attendez. Ah oui, j'en avais un autre que j'aimais assez tout à l'heure, parce que ça a un rapport avec la musique. Hein. Ah voilà, celui-là. Le sens inverse de l'aiguille d'une montre ne vous indique pas comment remonter le courant du temps. Pas plus que ravauder les souvenirs ne vous ferait descendre un peu plus bas que la mémoire. Mais que le chant d'une rivière passant entre les arbres ravive en vous le vol des cygnes de Sibelius ou Tellaria de Bach, les murs se rapprochent pour écouter cette extase sonore des ailleurs. J'ai prononcé Bach parce que c'est la vraie prononciation.
Oui.
Pour les Allemands, n'aiment pas entendre Bach. Voilà. Et puis, comme je suis breton, le CH, c'est re aussi.
Oui. La musique est importante pour vous ?
Comment ?
La musique est importante.
Ah, très
importante. Ça vous soutient.
Je n'écris jamais sans musique.
Oui, alors,
j'ai une musique intérieure. Ah oui.
Oui. Alors, il y a la musique intérieure, mais il y a également la musique. Vous provoquez, vous mettez de la musique quand vous écrivez ?
Alors, ça m'est arrivé quelquefois, plutôt un petit peu avant, mais pas n'importe quelle musique. Ça peut être une musique à silence, vous voyez, comme Arve Pärt, ou des certaines, comment dire, certaines lamentations, certaines, ou du plein chant, de la musique du Moyen-Âge, l'organum, vous voyez, ou des certaines voix, j'aime beaucoup cette époque-là, ou quelquefois carrément des polyphonies, mais après, j'éteins, je fais silence un bon moment. Et c'est vrai que la musique peut m'advenir ensuite. Et il m'est arrivé une fois de retoucher complètement un recueil. C'était le bruissement des arbres dans les pages. J'avais envoyé à René Rougerie. Puis, une fois envoyé, je me suis dit, mais ça ne va pas. Il faut des phrases. J'entendais des phrases en moi parce que avant, j'avais écouté de la polyphonie de Victoria Palestrina, les grands, vous voyez. Et je l'ai revu. Je l'ai revu à cette audition intérieure-là. Par contre, je n'écrirai pas en écoutant le rap ou certaines musiques violentes, j'aurais beaucoup de mal. Même le jazz, j'aime écouter le jazz comme tout le monde à un moment, mais pas trop longtemps. Voilà. Mais ça, c'est personnel. Hein. On a le droit de penser autrement.
Claude Vigée a dit que quand il était. Il s'est retrouvé aux États-Unis en 1943 dans le plus grand désarroi. Il disait que c'est les symphonies de Mahler qui l'ont sauvé.
Ah oui, c'est un grand aussi Mahler. Ah oui, grand. Mais si vous lisez Miloche, les symphonies, par exemple, c'est du phrasé.
Oui.
On a l'impression d'entendre du violoncelle derrière. Une grande nostalgie. Une grande nostalgie qui vous donne la patine du temps. Et un jour, j'ai entendu Manol me dire ses poèmes. C'est la seule fois qu'il a accepté. Et je me suis rendu compte, c'était comme des grands phrasés aussi de violoncelle. Et c'est que faut savoir que son épouse jouait du violoncelle aussi de temps en temps. Et il y avait de très longues phrases en apnée presque. Hein. Par contre, si vous lisez Guilivic, c'est au contraire.
Hein. Ah oui.
Et d'avoir une respiration.
Mais il parlait difficilement, c'est vrai.
Proche de l'apnée, peut-être. Je ne sais pas. Mais il a bien écrit, j'aime beaucoup Guilivic. Oui, mais dans un genre très différent.
Hein. Tout à fait. Oui. On va terminer par la lecture de vos poèmes, si vous voulez bien.
Oui. Je vais vous en lire un autre. Alors, je peux là maintenant.
Oui, bien sûr.
Oui, alors c'est un autre qui a été édité dans Demeure le Veilleur. Sourcier de mes propres sources, je creuse en moi profond. Jusqu'à faire chanter la couleur, le poème qui composerait des paysages sonores, l'énigme d'une voix surnaturelle qui ferait respirer d'autres planètes que ce monde atone. Mais ce chant à plein temps n'advient, Seigneur, que dans la liturgie des heures et des saisons, dans la secrète incantation du nom, le quatuor des évangiles, auquel l'âme, comme un jardin tout irrigué, prête l'oreille la plus fine.
Vous écoutez toujours ?
Je peux en lire un autre ?
Oui.
La cloche épelle le nom du Saint-Silence. Rien de plus beau qu'imaginer ses pas sur l'eau de la rivière de passage. Le temps qu'il faut pour ajuster son âme et l'orienter dans le sens de la sève. La grâce d'avoir ici-bas la terre où s'arrimer journellement le ciel en héritage.
Encore une autre ?
Oui, c'est un poème de componction, de compassion, on peut dire. L'amande brisée du regard, le cœur à rien. Homme trop forte pour si fragile écorce. Si tout s'en va, si je dois me quitter, que sous mes pieds, jamais le ciel de mes prières ne se dérobe. Un autre encore. Viens-tu à passer dans ma nuit ? Vite, je dresse la lyre du poème vers le ciel. Je m'apprête à grimper un à un les degrés de mes vers, et c'est toi qui descends, mot à mot, dans les miens. Devant toi n'être rien que droiture de flamme, effacement de neige, l'a jamais consenti. Et rendre grâce. Mon cœur bat la semelle sur ton seuil. C'est à genoux que je viens quémander ta grâce. Accueille-moi comme on accueille un pauvre. Je sais que seul l'effacement peut resplendir de ta présence. Alors, je me tairai pour écouter le chant des cèvres. Sa lumière boisée pour unique vitrail. Pas à pas, m'en irai au-devant de l'aurore.
En préambule de votre livre, vous avez cité André Dautel.
Ah oui.
Oui, lorsque tu reviendras, ça a été publié chez Phébus en 86, hein, chez une pendule dont le cadran est dépourvu d'aiguilles et de chiffres, mais le chant du balancier me permet de connaître l'heure précise. Bon.
Voilà.
André Dautel qui disait « L'écriture, ce n'est pas l'exécution d'un projet, c'est une tentative hasardeuse pour rencontrer des faits qui sortent un peu de l'ordinaire. » Est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition ?
Oui, tout à fait. Je pense que André Dautel est extrêmement proche de la terre et pas simplement des champignons. Il souffrait du mal de terre. Ah, c'était un homme merveilleux, à l'âme franciscaine. Que Jean Mambrino aimait beaucoup.
C'est
un grand ami à Jean Mambrino,
je l'ai bien connu ici. Mais merveilleux. Oui. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir aussi évoqué Jean Lavoué.
Oui. Ah oui.
Michel Manol.
Oui.
Michel Manol. Et il faudra que l'on fera quelque chose sur Michel Manol.
Et Hélène Cadou.
Hélène Cadou.
Je vous remercie, Christian, voilà. Parce que c'était fort fraternel. Voilà,
c'est moi qui vous remercie. À très bientôt. J'espère que nous aurons le plaisir de vous avoir.
Voilà. Sur le site, on fait le site, là.
Lespoètes.site. Voilà. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur lespoètes.site.
Voilà.
Merci beaucoup, frère.
C'est moi qui vous remercie.
À bientôt. Et à très bientôt. Je rappelle le titre voilà. de l'ouvrage. Donc il s'agit de Le chant du balancier de Gilles Baudry aux éditions Hatzolem.
Kenavo.
Kenavo, Adichatz, comme on dit ici.
Adichatz, oh, très bien.